durant cette période, beaucoup de choses, beaucoup de prédications, beaucoup d'études sur le coronavirus, et c'était quelque chose qui était préparé. Alors je me suis dit, eh bien, c'est préparé maintenant. Je me suis inspiré un petit peu de certaines choses que j'ai entendues, que j'ai lues, et je me suis dit, eh bien, je vais reprendre tout simplement avec cette question. Et la prédication ce matin est un peu spéciale, ça va être question-réponse. Je vais simplement poser une question et je vais essayer de donner une réponse au travers de la parole de Dieu. Eh bien, la question qui est générale au travers de cette prédication ce matin, que nous a appris le coronavirus? Enfin, je ne sais pas pour vous, mais depuis mi-mars, il faut dire que cette pandémie est exceptionnelle, d'après ce que je le comprends. Mais j'avoue personnellement que quand on s'y intéresse un petit peu, quand l'être humain s'y intéresse un petit peu, eh bien on s'aperçoit que ce n'est pas quelque chose de si exceptionnel que ça. Que c'est déjà arrivé dans le passé, je ne sais pas si ça va arriver dans l'avenir, mais en attendant, cette histoire de pandémie est déjà arrivée dans le passé, et je pense qu'elle a appris sûrement certaines choses aux personnes qui ont vécu cela dans le passé. Beaucoup de personnes ont eu peur, personnellement j'ai eu peur, que ça passe pas au-dessus de ma maison, mais que ça passe à l'intérieur de ma maison. Certaines personnes ici ont vécu cette expérience du coronavirus. Des chrétiens, personnellement j'ai lu dans pas mal d'articles que des chrétiens sont décédés du coronavirus. Il y a beaucoup de non-chrétiens qui sont décédés du coronavirus. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est quelqu'un qui faisait des articles, c'est Jean-Marc Taubois qui est décédé du coronavirus. J'ai lu un article où une vingtaine de pasteurs sont décédés aux États-Unis du coronavirus. Donc quand même, c'est quand même interpellant. Le coronavirus ne s'est pas arrêté à la porte en disant, ben voilà, ici, il y a un fils de Dieu et je ne rentrerai pas dans cette maison parce qu'il est fils de Dieu. Apparemment, les gens sont atteints et rappelez-vous de ce passage, hein, la pluie tombe sur le juste et sur l'injuste. Et parfois, ce genre de choses peut arriver autant chez l'un comme chez l'autre, mais je pense que cela doit nous apprendre en tant que chrétiens certaines choses par rapport à ce coronavirus. Alors, ce virus a déjà existé dans le passé. Quelques chiffres de rappel. Alors, il faut suivre l'actualité pour renouveler les chiffres régulièrement. J'en ai pris quelques-uns de chiffres. La France a eu 150 000 cas confirmés, il y a mes chiffres ont quelques jours, hein, et il y a eu un peu plus de 30 000 décès, alors peut-être que c'est un peu plus maintenant, je ne sais pas trop, mais en tout cas dans le monde aujourd'hui, il y a plus de 11 millions de personnes qui sont tombées dans cette maladie, et à l'heure actuelle, il y a plus de 540 000 personnes qui sont décédées du coronavirus. C'est quand même interpellant. Et l'Amérique est le pays à l'heure actuelle le plus atteint, avec plus de 130 000 décès à l'heure actuelle. Alors on peut se poser toutes sortes de questions. Avons-nous déjà vécu ce genre de virus dans le monde? Vous n'étiez pas né, mais moi non plus. Par contre, au tout début de la pandémie, un journaliste a fait une enquête, j'ai trouvé cet article le 19/03/2020 sur internet, et vous avez les 10 pires pandémies de l'histoire. Donc ça s'est déjà vécu, ce genre de choses. Je vais juste faire des petits rappels que vous trouvez sur internet si vous prenez un petit peu le temps. Vous avez la peste d'Athènes, ça a eu lieu en l'an 430 avant Jésus-Christ. Cette peste a tué 200 000 habitants, seraient décédés de cette peste, la peste d'Athènes. Vous avez ensuite la peste antonine, qui a eu lieu 165 avant Jésus-Christ. Et ça a tué 10 millions de personnes. Donc c'est quand même assez important. Vous avez la peste justicienne, excusez-moi, qui a tué environ 25 millions de personnes. Constantinople aurait perdu en un été 40% de la population. C'est des chiffres qui sont énormes. Vous avez peut-être entendu la peste noire, qui aurait tué entre 25 et 34 millions de personnes. Mais vous avez aussi la fièvre jaune au XVIIe siècle, au XVIIIe ainsi qu'au XIXe siècle. Vous avez la fameuse grippe espagnole, exportée par les Américains, paraît-il. Ils nous exportent pas mal de choses, les Américains, mais ça vient des Américains en 1919 et ça aurait eu pour conséquence entre 25 et 50 millions de victimes dans le monde. Et je pourrais continuer. Certaines personnes mettent le sida dans la pandémie, et à l'heure actuelle, il n'y a toujours pas de vaccin pour le sida. Certaines personnes, c'est vrai, ne meurent plus, mais elles ont une alimentation dans un système de médicaments qui fait que certaines personnes, c'est vrai, ne meurent pratiquement plus du sida aujourd'hui, quoique dans certains endroits du monde, oui, mais à l'heure actuelle, ça a quand même tué plus de 700 000 personnes sont décédées, malheureusement, du sida. Alors, moi, la question que je me suis posée au travers de ce coronavirus, est-ce que la Bible parle de virus? À votre avis, est-ce que la Bible parle de virus? Si vous la connaissez, votre Bible, vous allez sûrement me sortir certaines choses. Eh bien, moi, je vous dis que la Bible parle de virus. Le mot n'est pas peut-être employé comme au XXIe siècle, donc on ne va pas l'appeler Covid-19 ou le H2N2, mais vous avez dans la Bible certaines choses qui se sont passées dans l'Ancien Testament. Rappelez-vous Pharaon, l'histoire avec Pharaon. Vous avez Exode chapitre 7, 8 et 9. On nous parle dans ces chapitres de 10 plaies qui sont survenues de la part de Dieu. C'est-à-dire c'est Dieu qui a envoyé les plaies en Égypte parce que le cœur de Pharaon était devenu endurci. La Bible nous dit clairement que ce virus, ces plaies sont arrivées parce que le cœur de Pharaon s'était endurci. Mais vous avez, si vous continuez toujours dans l'Ancien Testament, Nombre chapitre 16, verset 42, c'est la révolte de Corée contre Moïse. Vous avez 250 000 personnes qui sont mortes par le châtiment de Dieu. C'est-à-dire c'est Dieu qui a envoyé le châtiment, là, dans cette situation, et 250 000 personnes sont décédées. C'est pas mes chiffres à moi personnellement, c'est pas des chiffres de scientifiques, c'est noté clairement dans la Bible, Nombre chapitre 16, verset 42. Vous avez un petit peu plus loin, Nombre chapitre 25, verset 1 à 9, où vous voyez l'idolâtrie du peuple, et Dieu en va envoyer une plaie dans la plaine de Moab, donc des personnes qui vont mourir là encore dans cette situation. Donc la Bible parle bien de plaies, de jugements, de virus, si vous voulez bien l'entendre comme vous pouvez. Mais en attendant, vous avez dans la Bible plusieurs mentions de maladies. Vous avez la fièvre, la lèpre, la dysenterie, les ulcères, les hémorroïdes, l'ophtalmie, pardonnez-moi, c'est l'infection des yeux, la cécité, la paralysie, la surdité et les personnes qui étaient mutilées. Donc il y a des choses comme ça que nous trouvons dans la parole de Dieu. Troisième question, pourquoi la maladie existe-t-elle? Je ne sais pas si vous vous êtes posé cette question. Moi je suis revenu du sud de la France. c'est à cause de ma climatisation dans ma voiture. J'ai attrapé un rhume à cause de la climatisation. Alors je me dis, mais la maladie, elle a bon dos. Non, c'est à cause de ta climatisation que tu as attrapé le rhume. Et donc je suis obligé maintenant de me promener avec un rouleau de papier pour essayer de me moucher, pour essayer d'évacuer mes sinus. Mais c'est la climatisation qui m'a donné ce rhume. Mais la maladie est là et les êtres humains ne sont pas exempts de maladies. Il arrive aussi que parfois nous sommes atteints dans notre corps par rapport à certaines maladies. La Bible nous dit que la terre, elle a été maudite par Dieu à cause du péché d'Adam et d'Ève. C'est clairement noté dans le livre de l'Ancien Testament, mais je voudrais aussi vous rappeler un passage que peut-être que beaucoup d'entre nous avons peut-être oublié, mais Romains chapitre 8, verset 22, nous dit clairement que la terre est maudite, qu'elle souffre. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Donc Paul rappelait ça à l'église de Rome en disant que la terre est en souffrance aujourd'hui et que certaines choses arrivent malheureusement parce que cette terre a été maudite littéralement par le péché. Quatrième question, pourquoi la mort existe-t-elle? Moi, je me suis souvent posé la question, maintenant que nous sommes en Jésus, j'aurais aimé, mais ça c'est moi personnellement, qu'à chaque fois qu'une personne accepte Jésus, bim, on part au ciel, ça aurait été génial, hein, ça aurait été le Graal, c'est-à-dire que quand on accepte Jésus, fini la souffrance, fini la mort, fini les moments difficiles, les épreuves, dès qu'on accepte Jésus, bim, on s'envole au ciel. Merveilleux, n'est-ce pas? Mais c'est pas comme ça. Hein? C'est pas comme ça du tout, du tout, du tout. Mais la mort existe, et les chrétiens comme les non-chrétiens passent par ces moments-là, et la mort peut être bien prise par certaines personnes, sans révolte, pour certaines, mais pour d'autres, on peut se révolter aussi. Mais la Bible, là aussi, est claire, Romains chapitre 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Donc, on doit tous y passer dans cette affaire, que ce soit par le coronavirus ou par autre chose, l'être humain doit tous y passer à la mort. Et par rapport à ce coronavirus, certaines personnes peut-être se sont posées la question, « Seigneur, pas comme ça. Tu ne vas pas me laisser mourir sur un lit, seul, sans ma famille, sans mes parents. » Mais c'est ce que certaines personnes ont vécu, hein, frères et sœurs. Certaines personnes sont décédées sans qu'il y ait ni père, ni mère, ni frère, ni sœur à côté de la personne, et la personne est décédée du coronavirus. Certains chrétiens l'ont aussi vécu personnellement. Et je pense que cela nous pousse peut-être à la réflexion, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Parce que si le coronavirus demain passe chez toi et que le Seigneur a décidé de la date, est-ce que tu es prêt à rencontrer ton Seigneur? Cinquième question, est-ce que le coronavirus est un jugement de Dieu? J'ai en lu, j'ai écouté, j'ai vraiment analysé certaines choses par rapport à cela. J'ai une tendance un petit peu modérée. Je vais m'expliquer. Oui et non. Ça peut venir de Dieu, oui bien sûr. Après tout, on voit dans la Bible que certains jugements étaient envoyés par Dieu. Je me dis, pourquoi pas, là, à l'heure actuelle, certains jugements sont envoyés peut-être par Dieu pour essayer de bousculer un peu l'être humain. Moi, je me dis parfois, quand je regarde le monde aujourd'hui, franchement, certaines personnes ont besoin d'être bousculées, que ce soit les païens, donc ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, mais que ce soit aussi les chrétiens. On a besoin parfois d'être bousculés par le Seigneur. On a besoin de se rappeler que Dieu contrôle toutes choses. Dieu est au contrôle de toutes choses. Et que parfois, on est obligé d'être bousculé. Dieu a permis dans la Bible des famines pour bousculer un petit peu certaines personnes. Dieu a permis des maladies, des catastrophes. On voit dans la Bible, c'est le droit de Dieu. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais pas toujours. Pas toujours. Quand j'analyse certaines choses aujourd'hui, vous savez, les gens qui vivent pas bien du tout, d'une certaine manière, pas d'hygiène du tout, certaines maladies arrivent par le comportement humain. Et je pense que certaines maladies arrivent parce que nous nous comportons comme loin de Dieu. Et si vous relisez Romains chapitre 1er et regardez ce passage, il est clairement expliqué que Dieu dit, vous voulez vivre sans moi ? Vous voulez vivre sans moi ? Eh bien, débrouillez-vous. Si il vous arrive quelque chose, c'est de votre faute. Vous ne pouvez pas dire que c'est la mienne. Verset 28 du chapitre Romains chapitre 1er. Comme vous n'êtes pas soucié de connaître Dieu, Dieu les a livrés dans leur sens réprouvé. Pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelle à leurs parents, dépourvu d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais encore ils approuvent ceux qui le font. Moi, je voudrais juste vous rappeler, Dieu n'est pas pour le mariage entre homme-homme, femme-femme. Dieu l'a interdit dès le départ. Aujourd'hui, la plupart des nations dans le monde acceptent le mariage homosexuel. J'ai appris par le biais, on est allé visiter Eric en Suisse, ce petit pays vient d'accepter, il y a quelques jours, le mariage homosexuel. Donc je me dis, mais ça prend une ampleur, n'est-ce pas, dans le monde. Mais Dieu est contre ça. Et au plus l'humanité s'éloignera de Dieu, ce qui est le cas, au plus l'éloignement de l'être humain va s'éloigner de Dieu, au plus Dieu va dire, eh bien, je vais te laisser faire. Tu veux vivre comme ça ? Tu ne m'acceptes pas, tu ne veux pas me reconnaître en tant que le Créateur, eh bien je vais te laisser faire et je vais te laisser agir dans la vie et nous connaissons les conséquences de cela. Être sans Dieu. Si le salaire du péché c'est la mort, pourquoi sommes-nous encore vivants ? Je ne sais pas si vous êtes posé cette question. C'est une pure grâce. C'est l'amour de Dieu. Si vous êtes encore vivant, c'est l'amour de Dieu. Imaginez, je l'ai dit une fois derrière cette chaire, imaginez qu'à chaque fois que vous avez menti, que vous avez volé un bonbon, ou que vous avez volé les impôts, ou l'État, d'un coup, d'un claquement de doigts, t'as menti, tu meurs. Ça serait radical, n'est-ce pas ? Ça serait vraiment radical. Il resterait pratiquement plus personne. Il paraît qu'on va atteindre les 7 milliards de personnes sur cette terre. Il resterait pratiquement plus personne. Ça serait une sacrée pandémie, n'est-ce pas ? Si chaque fois qu'on commettait un péché, bim, ça serait la mort. Il n'y aurait plus assez de place dans les cimetières. Bien, moi, je voudrais vous montrer que Dieu est amour. Et s'il nous laisse vivants, c'est parce que Dieu est amour et qu'il veut que nous puissions nous rappeler cela à chaque fois que tu te regardes dans une glace le matin, tu dois te rappeler de cela, que Dieu est amour. Dieu est bon. Dieu manifeste cette bonté encore chez toi. Le coronavirus est passé chez certaines personnes et ça a été radical. Et je pense que ça a besoin de nous le rappeler dans le quotidien et nous avons besoin aussi de nous le rappeler. 2 Pierre au chapitre 3 verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur et ce jour-là les cieux passeront avec fracas. Les événements embrasés se dissoudront et la terre avec ses œuvres qu'elle renferme sera consumée. Est-ce que vous pensez que c'est le temps? Non. Ce jour-là va venir. Le Seigneur l'a promis, le Seigneur le dit encore aujourd'hui, ce jour-là doit venir. Est-ce que c'est cette période? J'en sais rien. L'essentiel, c'est que cela nous le rappelle dans notre esprit. J'aime beaucoup ce passage dans Ézéchiel, chapitre 33, verset 11. « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. » Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Rappelez-vous de ce verset. C'est Dieu qui le dit. L'Éternel dit, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. C'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de vos mauvaises voies. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Dieu ne veut pas que personne meure sur cette terre. Par contre, Dieu veut que nous nous rappelions et que nous nous repentions de nos péchés pour que nous puissions nous approcher de lui dans l'éternité. 7e question. Est-ce que Dieu aurait pu empêcher le coronavirus? Oui. Certaines personnes le témoignent aujourd'hui. Dieu a manifesté de sa grâce. On loue le Seigneur parce que Claude a été guéri du coronavirus. On loue le Seigneur parce que Salem a été guéri du coronavirus. Et je suis reconnaissant que Dieu a manifesté sa grande grâce. Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu est au contrôle de ma vie. Il aurait pu décider à un moment donné, terminer. Voilà, c'est le jour où c'est terminé pour toi. Donc c'est terminé. Pour toi, il n'y a plus. Le temps est venu pour que tu puisses revenir vers moi. Il aurait pu aussi le décider. Et en même temps, nous devons nous prendre conscience dans son grand amour que Dieu manifeste encore son amour encore aujourd'hui. Mais cela doit aussi nous rapprocher de Dieu, frères et sœurs. Si nous voyons une main aussi puissante agir vis-à-vis de telle ou telle situation, est-ce que vous ne pensez pas que demain, il pourrait agir avec autant de puissance dans notre vie? Je me dis, mais s'il a préservé Claude, s'il a préservé Salem, et je pourrais continuer, enfin, c'est ce que nous avons vécu, nous, à l'église de Marolles-sur-Seine. Mais je me dis, mais il pourrait me préserver demain de telle ou telle situation? Dieu pourrait empêcher, bien sûr que Dieu pourrait empêcher. Il est au contrôle. On le dit, on le chante, on y pense de temps en temps. Mais Dieu est au contrôle de toutes choses. Alors, que dois faire dans ma vie, enfin, ce coronavirus? On n'en a pas terminé encore. Hein. Ça serait merveilleux que ça soit terminé, qu'on ait trouvé la solution, qu'on ait trouvé le vaccin. Ça serait merveilleux de dire, eh bien voilà, le monde a trouvé le vaccin pour le Covid-19. Allez tous vous faire vacciner. Bachelot est arrivé au pouvoir. Allez tous vacciner avec cette affaire. Ça serait merveilleux, n'est-ce pas? Mais je pense que le Seigneur contrôle toutes choses. Quand le Seigneur dira stop, ça va s'arrêter. Tant que le Seigneur ne dit pas stop, ça ne s'arrêtera pas. Et je pense que nous devons réaliser cela dans notre vie. Laissez-moi vous rappeler, c'est un passage que j'ai lu assez rapidement par rapport au Covid-19. Et c'est un passage que vous avez dans le Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, les versets 1 à 5. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens en étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Ce qui arrive dans notre monde, c'est la même histoire qui arrive là avec la tour de Siloé. Des catastrophes, il y en aura. Aujourd'hui, ça s'appelle Covid-19. Personnellement, je ne connaissais pas ce mot jusqu'à ce que j'y arrive. Demain, ça va peut-être s'appeler autre chose. Mais cela doit nous rappeler à la repentance, à mettre nos vies en règle, parce que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Notre vie peut s'arrêter du jour au lendemain. Et nous devons être au clair avec le Seigneur. Si vous n'avez pas Jésus-Christ, acceptez-le aujourd'hui. Repentez-vous. Croyez en Jésus-Christ. Et bien sûr qu'il va changer votre vie. Est-ce que votre vie ne sera pas atteinte du coronavirus? Pas du tout. La Bible ne dit jamais cela. Par contre, vous serez avec lui dans l'éternité, dans sa présence, et le Seigneur l'a promis. Si vous croyez au Fils de Jésus-Christ, vous serez avec lui dans la présence éternelle, dans l'éternité, parce qu'il promet la vie éternelle à celui qui l'accepte. Maintenant, dans la pratique, et je vais terminer avec cela. Qu'est-ce que vous avez appris du coronavirus? Je voudrais vous reposer la question. L'apôtre Paul dit ceci. Philippiens chapitre 1, verset 21. Christ est ma vie. Mourir m'est un gain. Est-ce que réellement, est-ce que mourir est un gain pour vous? Être dans la présence de votre Seigneur dans l'éternité. C'est ce que Paul dit. Bon, que je sois atteint d'un cancer, d'un coronavirus, qu'importe le nom, si je meurs demain, je serai avec mon Sauveur dans l'éternité. Personnellement, j'ai médité à ce verset. Et je me suis dit, mais si demain je vais dans un supermarché et qu'il y a là une personne qui oublie de mettre le masque et qui me crache dessus et qui m'envoie son coronavirus. Nicolas, est-ce que mourir t'est un gain? Est-ce que t'es prêt à abandonner tes chars, tes chevaux, ta maison, ton épouse, tes vacances, tes biens matériels? Est-ce que tu es prêt à lâcher tout pour retrouver ton Sauveur? Vous savez, on se la pose la question. Hein? Moi, je me la suis posée. Et je pense que c'est intéressant parfois de nous rappeler que, en tant que chrétien, on a une vie à vivre avec le Seigneur ici-bas. Et moi, ça m'a rappelé que le témoignage a pris une ampleur chez moi beaucoup plus importante de témoigner à nos familles, à prier pour nos familles. C'est vrai que mon épouse a rappelé que Georges est retourné à l'église, mais ça faisait des années qu'on priait pour qu'elle retourne à l'église. C'était une chrétienne qui vivait sa vie chrétienne, qui avait accepté Jésus-Christ dans sa jeunesse, qui a marché avec le Seigneur, qui s'est fait baptiser. Et puis, à un moment donné, elle a pris la décision de ne plus suivre le Seigneur. Elle s'est éloignée pendant des années du Seigneur. Et elle l'a dit, elle nous l'a dit, que c'est cette période du coronavirus qui l'a rapprochée de Dieu. Je me dis, mais gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Pourquoi? Parce qu'une de ses filles a été atteinte du coronavirus. Et elle s'est dit, mais waouh, il y a quelque chose qui va se passer là. Si je perds ma fille, je perds tout. Et voyez-vous, ça l'a fait réfléchir en disant, mais je dois revenir au Seigneur. Est-ce que nous n'avons pas besoin parfois de réfléchir à ça? Est-ce que mourir met réellement un gain en tant que chrétien? Ben, posez-vous cette question. Si demain tout doit s'arrêter, parce que vous n'êtes pas éternel, hein, je voudrais quand même vous le dire, hein, ni vous, ni moi. Un jour, tout va s'arrêter. Que ce soit d'un coronavirus, ou que ce soit d'un autre mot, un jour, tout va s'arrêter. Et je pense que nous avons besoin, nous, en tant que chrétiens, de nous le rappeler, dans notre vie quotidienne. Que notre vie soit toute à la gloire de Dieu. Alors, Seigneur, apprends-moi la repentance. Seigneur, apprends-moi le pardon. Si je dois régler certaines choses avec certaines personnes, Seigneur, apprends-moi le pardon. Parce que si tout doit s'arrêter demain, au moins que je sois en règle avec les autres, avec les personnes qui m'entourent. Seigneur, apprends-moi ton amour au quotidien. Apprends-moi, Seigneur, à vivre comme toi tu as vécu ici-bas sur cette terre. Et si tout doit s'arrêter, Seigneur, eh bien que les gens disent, waouh, celui-là, c'était quelqu'un d'exceptionnel. C'était quelqu'un qui manifestait l'amour, c'était quelqu'un qui manifestait le pardon, c'était quelqu'un qui manifestait la repentance dans son quotidien. Amen.